Je voulais savoir comment ça se passe l'oral pour les candidatures maîtres de conf. Qu'est-ce que vous présentez en fait?
Au début, on avait parlé des trois exigences pour un enseignant-chercheur. Bah, je me suis basé là-dessus. J'ai démarré sur cette définition-là de l'enseignant-chercheur et j'ai exposé ce que je pouvais apporter rapidement au laboratoire. Et grosso modo, j'ai essayé de leur montrer en quoi je pouvais être rapidement opérationnel. Alors pensez, parce que derrière, il y a tout un tas de questions, je ne m'y attendais pas à certaines. Il y a l'aspect réseau. Qu'est-ce que vous amenez en termes de réseau? Qu'est-ce que vous amenez aussi en termes d'axes de recherche? Après, ils vont venir vous chercher plutôt sur des questions, plutôt sur l'aspect recherche, quoi. Bon, après, dans le jury, vous avez des gens qui sont plutôt spécialisés. Vous avez des spécialistes. Hein. Je me rappelle, c'était sur le management. Et j'avais des spécialistes du loisir sportif. Donc, j'ai dû argumenter sur le fait que j'étais plutôt sociologue. Enfin, je ne suis pas du tout management. Et donc, j'ai plutôt axé sur sociologie des organisations. Et donc, je me suis dépatouillé comme ça. Parce que je ne correspondais pas du tout au profil. Ah, je peux vous le dire. Les candidats devant moi étaient vraiment... Le premier, il a écrit un bouquin. C'était handicap, loisirs sportifs. C'était le profil idéal, quoi. Le premier, s'il était premier, c'est parce que il correspondait exactement au profil. Alors derrière, moi, j'ai dû me battre pour essayer de raccrocher le truc. Bon, comme quoi.
Tout l'intérêt, je pense, de contacter le...
C'est ouvert parce qu'ils vont vous dire, donc vous pouvez demander plus d'informations. Donc, dans ce poste-là, quel genre d'enseignement je vais faire, TD, TP, et quelles sont les matières que je vais enseigner. Et point de vue recherche, quel sera mon projet de recherche, le projet de recherche du candidat au labo. Donc, ça va vous permettre d'orienter votre présentation de façon à ce que ça colle vraiment aux enseignements qu'ils demandent et à la recherche qu'eux ils demandent. Donc, c'est vraiment le contact avec le labo et la faculté, c'est vraiment très important.
Je voulais savoir aussi comment, est-ce que vous savez comment sont désignés, par exemple, les rapporteurs de dossiers de qualification, après pour le recrutement de maîtres des conférences, je pense que c'est plus au niveau local, mais comment ils sont désignés, ces commissions, ces rapporteurs et tout ça, enfin, c'est des scientifiques comme nous, c'est de l'administration.
Non, pour les dossiers de qualif, moi j'avais deux personnes par dossier, et qui étaient des gens spécialistes dans les deux domaines. Donc c'était par exemple pour la CNU qui était pharma, donc ça c'était vraiment des gens qui étaient vraiment, avaient des spécialités vraiment pharma, parce que moi j'avais fait une petite recherche sur les rapporteurs, donc dès qu'on m'avait donné les noms des rapporteurs, je suis allée sur PubMed voir qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc c'était vraiment des spécialistes dans le domaine, c'est des chercheurs, mais je pense que c'était des maîtres de conf, oui, c'est des enseignants-chercheurs. Et par contre, pour les maîtres de conf, pour le jury, je me souviens, c'était moitié montpelliérain et moitié à l'extérieur de Montpellier. Donc c'est national, mais ce n'est pas des montpelliérains. Et c'était des spécialistes de mon domaine. Ça, c'était pour le concours auquel j'avais postulé. Mais pour toi,
non, c'est
pareil.
C'est ouais. Ça, effectivement.
Il y avait 10, je pense, dans le jury. C'était 5 montpelliérains, 5 non montpelliérains.
Moitié-moitié.
Merci.
J'ai une petite question par rapport au dossier de qualification. D'ailleurs, pour un diplômé étranger, est-ce qu'il peut déposer un dossier de qualification?
Oui, il n'y a pas de barrière de nationalité. Moi, je ne suis pas française, j'ai tout fait, je n'ai pas eu de soucis. Voilà.
Et également pour le recrutement?
Pour un dossier de maître de conf, tout.
Ok, merci.
Il n'y a pas de soucis. Même pour les concours CNRS, INRA, INSERM.
Bonjour, je voudrais savoir si la dispense de cours particuliers compte dans l'enseignement, enfin dans les heures d'enseignement.
De cours particuliers durant la thèse?
Durant la thèse ou avant?
Ça, vous pouvez l'ajouter dans votre CV. C'est pas compté dans l'heure d'enseignement que vous, dans l'attestation que vous demandez à la fac. Mais ça, vous pouvez la valoriser. Moi, par exemple, j'en ai fait, je l'avais mis dans le CV. Donc ça, c'est valorisé. Mais bon, c'est pas officiel, mais il faut le mettre.
Merci.
Vous avez dit que dans l'enseignement, il y a les heures d'encadrement qui sont comptées. Qu'est-ce que vous entendez par encadrement? Et puis également, en recherche, vous avez parlé d'articles indexés, ce que ça veut dire des articles classés. Et voilà, je ne vois pas la différence. Et puis, est-ce que c'est exclusivement que des articles? Est-ce que lorsqu'on n'a pas publié, on n'a vraiment aucune chance d'avoir la qualif?
Oui, donc pour répondre à la première, c'était déjà, j'oublie la question. Oui, pour l'encadrement. Pour moi, j'entends par encadrement, c'est l'encadrement d'un stagiaire dans le labo. Vous avez participé à l'encadrement, même pas fait l'encadrement toute seule. Si vous avez participé à l'encadrement d'un stagiaire, corriger son rapport de stage, voilà. Donc ça, c'est considéré, c'est de l'enseignement, c'est de la formation. Donc ça, il faut le mettre. Et par contre, pour les articles indexés, je pense que c'est, le facteur d'impact des journaux. Oui. Voilà, c'est le facteur d'impact des journaux. Donc il faut, voilà, s'ils sont bien classés, même s'ils ne sont pas bien classés, si votre... vous avez publié, il faut le mettre. C'est un exemplaire de travaux. Après, si vous n'avez pas les articles, c'est ce que j'ai déjà dit, que c'est possible de mettre d'autres travaux de recherche s'ils n'ont pas précisé 3 articles. Donc moi, ils ont dit 3 travaux de recherche, je pouvais mettre article ou bien autre article, autre exemplaire de travaux. Mais s'ils précisent 3 articles, je pense qu'il faut vraiment 3 articles.
Alors. Est-ce que vous avez une idée statistiquement sur l'impact du fait de mettre article ou pas, parce que c'est vraiment ce qu'on entend, c'est que sans article, on n'a aucune chance de faire d'avoir la qualif.
Ouais.
Est-ce qu'il y a, par exemple, statistiquement, qu'on a plus de chances ou on n'a aucune chance de l'avoir?
Ça, franchement, je ne sais pas, mais l'article, c'est le seul outil qui concrétise vraiment vos résultats de thèse. Donc, s'ils veulent vraiment chercher à voir ce que vous avez fait durant la thèse, surtout dans les CNU auxquels j'avais postulé, vu qu'ils n'ont pas demandé le manuscrit de thèse. Donc, ils savent pas ce que j'ai fait durant la thèse. Donc, moi, c'était mes articles qui ont un peu reflété mon travail de thèse.
Bon, évidemment, je reviens sur les questions encadrement. Ben, si vous pouvez encadrer des mémoires de master, master pro, master recherche, c'est une bonne chose, quoi. Enfin, je pense que derrière, il y a une compétence qui est assez reconnue par que ce soit des rapporteurs pour le dossier de qualif ou pour le concours de maître de conférence. Ensuite, sur les articles indexés, donc on parle effectivement d'impact factor. Par exemple, dans le CV, moi, j'ai carrément mis article indexé. Enfin, voilà, et j'ai sorti les articles que j'avais. Alors, sachez aussi que si votre directeur de thèse est responsable d'une grosse revue et que vous publiez là-dedans, ça compte pas. Par exemple, moi, mon directeur, il est responsable de la revue STAPS, qui est une revue indexée. J'ai publié là-dedans, mais ça ne me sert à rien. Enfin, ça ne me sert à rien. Si, je suis visible scientifiquement, mais après, sur la qualif ou le concours de maître de conférence, non.
Et je rajoute aussi pour l'encadrement, parce que moi, durant la thèse, on m'avait demandé d'intervenir pour animer des ateliers dans une école primaire à Montpellier. Et donc, ça, je l'ai mis pour montrer que vous pouvez également vulgariser vos résultats de thèse. Ouais, donc parler un peu de votre domaine, votre spécialité, mais de façon vulgarisée. Donc ça aussi, ils recherchent un peu que vous arrivez à intervenir quand même à plusieurs niveaux, à un public, un grand public, ou bien à des publics un peu spécialisés.
Oui, juste plusieurs précisions. Quand tu viens de dire si ton directeur de thèse est responsable d'une revue, mais c'est seulement lui ou aussi directeur de labo, voilà.
Il me semble que c'est seulement lui. Ouais.
Seulement lui, d'accord.
Après, à vérifier parce que... Ouais. Bon, après, votre co-directeur aussi. À mon avis, oui. C'est eux qui ont encadré la thèse. Donc, parce que ça peut être... Enfin, je sais pas, à vérifier.
D'accord.
Le directeur de labo, je suis pas sûr.
D'accord. Et après, encadrement, enfin, du coup, je te pose les questions plutôt à toi, parce que moi aussi, je suis en sciences humaines. En fin de thèse, tu as pu encadrer des mémoires de master ou...
Oui, oui.
Ouais, ouais, on t'a confié ça. D'accord.
Bien sûr. À un moment donné, c'était en pénurie de...
D'accord. Parce que moi, je pensais qu'il fallait être maître de conf pour faire ça, mais... Okay.
Non, pas forcément. Okay. Après, c'est master 1.
Ouais.
Toi, c'est pas un master...
Ok.
Et ensuite, l'avantage aussi, c'est que j'encadrais dans les doctorales. Je ne sais pas si vous connaissez cette formation. Ouais. Donc, je faisais partie des formateurs. Et ça aussi, c'est une expérience que j'ai pu valoriser facilement sur le CV. Sachez aussi que, là, on parle du dossier. Dans le dossier, vous avez une partie CV. Moi, j'ai démarré ma partie par 3 pages de CV. Et après, derrière, j'ai enchaîné recherche, projet de recherche, enseignement et administratif. J'ai terminé comme ça. Et petite 2 pages de synthèse de tout ce que j'ai pu faire, quoi. Voilà mon dossier. Et après, toutes les annexes derrière, avec toutes les attestations que j'ai scannées. Bon, vous le faites une fois, après, vous ne le faites plus. Mais bon, c'est assez laborieux, quoi.
Ok. Et dernière question, pardon. C'est que, tous les deux, vous avez obtenu des qualifs dans 2 sections différentes. Mais moi, je me soucie dans l'autre sens en me disant... si je suis trop entre deux disciplines, est-ce qu'au final, je vais avoir aucune des deux parce que je suis bien identifiée dans aucune des deux? Enfin, je le raisonnais dans l'autre sens et je sais pas si j'ai raison de me faire du souci comme ça ou si, en général, c'est plutôt au contraire bénéfique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais.
Je pense que si tu corresponds aux critères et que tu réponds aux attentes, qui étaient par exemple en sociaux, deux articles annexés, après...
Dans des revues de sociaux, tu veux dire? Ouais.
Ouais, ça suffit.
Les CNU, c'est assez général. Donc les sections, c'est assez général quand même. Donc c'est pas trop précis, donc il ne faut pas se soucier. Même moi, j'avais le concours de maître de conf qui était ouvert, ils avaient demandé qu'on soit qualifié dans l'une ou dans l'autre. Moi, j'avais les deux. Mm. Tu vois, donc comme quoi, c'est... Voilà. C'est pas vraiment limité, je pense.
Dernière précision, vous pouvez postuler à des postes de maître de conférence dans d'autres CNU. Si vous n'êtes pas qualifié dans un CNU qui correspond à un poste de maître de conférence, vous pouvez quand même postuler, parce que vous êtes qualifié. Bon, après, à vous, dans votre dossier, à montrer comment vous correspondez au profil, quand même. Voilà.